Salut et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de Bien Entendu. Aujourd'hui, on va parler d'antispécisme et de notre langage, de ce qu'il révèle de notre relation avec les autres animaux. Ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, c'est un article que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps qui disait que des députés voulaient interdire l'utilisation de termes comme steak et hamburger végétal, lait de soja, etc., etc. Et je me suis dit que si on voulait vraiment appeler les choses par leur nom, on devrait commencer par s'intéresser aux mots que l'on a assimilés depuis tout petit et toute petite et que l'on utilisait régulièrement sans vraiment les remettre en question et qui, selon moi, contribuent à cacher une grande partie de la vérité. Je l'ai remarqué notamment en militant qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient absolument pas conscience de ce qu'ils ou elles consommaient. Qu'ils voyaient juste ce qu'il y avait devant eux sans vraiment s'interroger sur comment c'était arrivé là, ce que ça impliquait que ce soit là, et ce qu'il y avait derrière, en fait. Et je pense que cette dissonance cognitive est liée notamment à l'utilisation d'un certain vocabulaire et de notre langage. Par exemple, quand j'étais petite, on m'a tendu une assiette et on m'a dit « mange ta viande ». Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là ? Le terme « viande » n'est pas venu compléter celui que j'avais de l'animal, n'est pas venu se joindre à lui, c'était juste deux choses totalement différentes. Et j'ai vu, au même titre que les légumes, la viande comme un aliment, comme de la nourriture. Et ça m'a totalement empêché de faire le lien entre l'animal et ce qu'il y avait dans mon assiette. Pour moi, c'était deux choses totalement distinctes. C'est seulement après que j'en ai pris conscience. Le seul souci, c'est que ce processus n'est pas utilisé seulement avec le terme générique de la viande. Donc, qui consiste en fait à camoufler la vérité en utilisant deux termes différents pour deux mêmes choses, parce que finalement l'animal vivant et l'animal dans l'assiette c'est le même, c'est juste qu'il a été tué entre temps, et on utilise pourtant deux mots bien différents. On utilise aussi pour les autres, toutes les espèces animales en fait, qu'on va venir invisibiliser totalement en leur donnant des noms de plats. Donc on va les appeler lard, jambon, blanquette, tartare, carpaccio, et j'en passe. Et on va totalement oublier qui ils étaient avant de mourir, en fait. Et même quand on utilise des mots qui se rapprochent plus de l'animal, on va quand même oublier une partie de leur identité. Je pense notamment au poulet. Quand on dit poulet, on ne sait plus si c'est une poule, un coq ou un poussin. Les données de leur genre et de leur âge sont totalement perdues et négligées. Pour de nombreux animaux, il y a aussi deux noms différents, encore une fois, quand l'animal est vivant et quand il est mort. Un cochon est ainsi vivant, un porc est mort. Encore une fois, ça nous empêche de faire le lien. Ce processus d'invisibilisation des animaux est prolongé par l'utilisation d'articles indéfinis. Par exemple, avec du poisson. Du poisson, ça implique quoi ? Ça implique qu'on les met dans une masse, qu'on les fond dans la masse. C'est un tout dans lequel on pioche. On peut prendre une partie, comme on prendrait du pain, par exemple. Mais non, en fait, ce sont des individus. On peut les compter, ce sont 1, 2, 3 poissons qui ont été tués pour ça. Ce sont des individus. On ne peut pas le voir comme une masse, on ne peut pas. Pour les fruits de mer, c'est quelque chose que je trouve très choquant également d'appeler des fruits. Les fruits, ça pousse dans les arbres, or les fruits de mer sont des individus. En anglais également, c'est seafood. Food, ça renvoie à la nourriture, donc encore une fois, c'est centré sur l'humain et pas du tout sur eux, parce qu'ils vivent en fait, ce sont des êtres vivants. Ça devait être sea life. Parce qu'ils vivent et ils ne sont pas là pour être mangés. Leur utilité première, en tout cas, c'est de vivre pour eux-mêmes et l'homme n'a absolument pas besoin de fruits de mer pour survivre, ni aucun produit d'origine animale d'ailleurs. Petite parenthèse faite. Le processus d'invisibilisation va invisibiliser l'identité des animaux, mais également toute la souffrance et tout le processus de fabrication, si on peut dire ça, de produits d'origine animale. Notamment pour les œufs, il y a beaucoup de gens qui sont révoltés quand on appelle les œufs des menstruations de poules. Mais en fait, ce sont ni plus ni moins que des règles de poule. C'est ça en fait, les œufs. Pareil pour le lait, on décline le lait dans plein de noms de fromages différents, de beurre, etc. Et souvent, ça m'arrive de demander s'il y a du lait dans le plat, par exemple, ou dans le pain. Et on me dit, non, non, il n'y a pas de lait, juste du beurre. Et les gens n'ont même plus conscience, en fait, de ce que ça implique du processus de fabrication du beurre, qu'en fait, du lait, c'est du lait. Et même le processus de fabrication du lait, les gens n'en ont pas conscience. Je reviendrai dans un autre épisode de podcast. Pour les plats à base d'animaux également, ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de dire « Oh, tiens, tu veux du sang avec ton steak ?» On va dire de la sauce. Ça va totalement de nouveau cacher toute la violence et tout ce que ça implique de tuer un animal pour qu'il arrive dans l'assiette finalement. Mais la sauce, ce n'est ni plus ni moins, encore une fois, que du sang. Et ça devrait nous mettre la puce à l'oreille quand on dit la cuisson saignante ou à point. Oui, saignante, en fait, c'est littéralement ça. Ça veut dire que l'animal baigne dans son sang. Et ça peut choquer certains. Je suis désolée pour les âmes sensibles. C'est juste qu'on n'a vraiment plus l'habitude de le dire et de l'entendre. C'est comme un tabou, mais oui, c'est la réalité, en fait. Et encore une fois, il n'y a pas seulement avec la nourriture qu'on minimise ce qu'on fait avec les animaux, mais également avec le cuir, par exemple. On dit du cuir comme si c'était comme du coton, finalement. C'est quelque chose qu'on trouve dans la nature, qui est comme ça, qui est naturel. Souvent, d'ailleurs, on voit cuir naturel. Il n'y a rien de naturel dans le cuir. En fait, c'est une peau d'animal. On a tendance à l'oublier aussi. Voilà pour ce qui est de la minimisation de ce qu'on fait aux animaux. Je pense que c'est important aussi de souligner notre langage assez spéciste dans les expressions du quotidien, quand on veut faire comprendre quelque chose à quelqu'un, quand on veut l'insulter, quand on veut le dégradé même, c'est aussi dégradant pour l'animal lui-même. Dans le sens où on utilise des expressions comme tête de cochon, tu te fais prendre pour un pigeon, bête à bouffer du foin, bête, ou tu manges comme un porc, et j'en passe. Et c'est vraiment pas ça qui manque, les expressions basées sur les animaux. Et encore une fois, je pense que c'est très dégradant parce que ça renvoie l'animal comme inférieur et l'homme supérieur finalement à tout ça. Et voilà, je pense que c'est nécessaire de voir que les animaux ne sont pas inférieurs à nous, simplement différents et ont d'autres capacités que les nôtres, tout simplement parce que nous ne pouvons pas respirer sous l'eau comme les poissons, nous ne pouvons pas voler comme les oiseaux, nous ne pouvons pas changer notre couleur de peau comme les caméléons. Et les autres animaux sont sentients, ont d'autres capacités de communication intellectuelle, etc. Et ça, elles ne doivent pas être négligées. Ensuite, petite parenthèse de nouveau sur l'anglais, ne vous inquiétez pas, rien de bien compliqué. C'est quelque chose qui m'avait choquée à l'époque, dès ma première année d'anglais, que il y a une différence entre les animaux domestiques, où on pouvait utiliser he et she, donc il et elle. Et pour les autres animaux où on devait utiliser it. En fait, à l'époque, je pense que ce qui m'avait surtout choqué, c'est qu'il y ait un neutre, que en français, tout a un genre, et c'était très compliqué pour moi d'avoir ni l'un ni l'autre. Parce que quand on traduit mot à mot, ce qu'on fait souvent en débutant, on veut traduire le et la. Mais bon. Maintenant, ce qui me choque le plus, c'est que it, c'est pour les choses, en fait. Ça renvoie l'animal à une condition d'objet à nettement inférieur, donc, et totalement inanimé. On lui enlève son côté vivant. Et je me refuse maintenant à utiliser it parce que je trouve ça vraiment très dégradant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, on ne peut pas révolutionner les dictionnaires du jour au lendemain. On ne peut pas révolutionner notre manière de parler du jour au lendemain et encore moins l'exploitation animale qui ne va pas cesser du jour au lendemain, malheureusement. Mais ce qu'on peut changer, c'est notre perception de tout ça. Notre perception de l'animal, de sa place. De voir comme inférieur. Ça, on peut changer du jour au lendemain. Ça, on peut se dire, ben non, en fait. Le remettre en question. Voir l'animal pour qui il est avant de à quoi il nous sert. Même si on ne change pas notre manière de parler de l'animal, changer notre manière de penser et notre perception. Accepter la réalité, accepter ce qu'il se passe, accepter les vrais mots et même si on refuse de les employer, les avoir dans un coin de sa tête et savoir que ça existe, savoir que c'est ça. Faire le lien, tout simplement, faire le lien. Et si on se sent de le faire, aider les autres à faire le lien, aider les autres à prendre conscience de ce que c'est. Et utiliser les vrais mots parce qu'il ne faut pas en avoir peur finalement, ce sont que des mots, ce n'est que la réalité. Même auprès des enfants d'ailleurs, je vous mettrai le lien d'une vidéo que je trouve très intéressante sur la discrimination des enfants auxquels on ne pense pas beaucoup, mais les enfants ont une grande conscience, ce n'est pas la peine de les préserver de ça, au contraire, ça peut en faire, ne pas en parler peut faire peur, peut être un tabou. Je pense que pour nous, c'est pour ça aussi que c'est un tabou, parce qu'on ne nous en a pas parlé, et en prendre conscience seul, et de voir qu'il y a peu de gens qui en parlent, de voir qu'il y a peut-être peu de gens qui y sont sensibles, c'est dur d'en parler, et d'avoir tout ça dans un coin de sa tête. Mais justement, je pense qu'il faut en parler, si on se sent de le faire, pour aider les gens à prendre conscience, et parce que beaucoup ne sont pas conscients de ce que c'est réellement, de ce que ça implique, et que eux ensuite puissent se dire je veux ou je ne veux pas continuer de consommer comme ça, de faire comme ça, de voir les choses de cette manière et d'utiliser les animaux de cette manière. N'hésitez pas à débattre dans la bienveillance, à me donner vos points de vue, si vous avez déjà réfléchi sur ça, si vous y avez déjà pensé ou pas du tout, si je vous ai appris quelque chose ou pas, s'il y a d'autres erreurs de langage comme ça qu'on fait dans d'autres domaines, dans le même domaine, si vous avez d'autres exemples auxquels vous pensez, n'hésitez pas et on se retrouve très très bientôt dans un nouvel épisode de Bien Entendu.